Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes, merci David. C'était bien sympa ce petit physical d'Olivia Newton-John, ça faisait un moment, tiens. Très sympa. Alors c'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, nous recevons l'amicale laïque d'Acquoise, représentée par Myriam Saïès, directrice, et Marie-France Isolé, présidente. Bonjour mesdames, comment allez-vous ?
Fort bien.
Bonjour, pareil, très très bien aujourd'hui.
Voilà, alors on va parler aussi d'un anniversaire qui va avoir lieu là, vénérable, 80 ans de l'association.
C'est énorme.
Oui, c'est quand même, oui. Ouais, c'est vrai. Mais on trouve quand même des fois dans les Landes pas mal d'associations qui datent d'une période, hein, on va en parler un petit peu de l'historique, hein, une période de l'histoire où il s'est passé des choses. Hein. On va passer une petite heure ensemble pour parler de ça. On va d'abord écouter le flash info national et international et on trouvera des choses un peu plus locales et un peu plus gaies tout de suite après, je vous le promets. À tout de suite. Et c'est parti. Alors on va commencer, tradition oblige, par découvrir un petit peu nos invités, hein, qui nous parlent un petit peu de leur une petite bio, une petite trajectoire personnelle, qui nous donnera une idée de la trajectoire qu'ils ont parcourue avant de se retrouver aujourd'hui à ce micro. Qu'est-ce qui s'y colle en premier ?
C'est moi qui commence.
Allez, Marie-France.
Alors, je peux y aller ?
Oh, bien sûr.
Alors, je m'appelle Marie-France Isolé. Je suis issue de l'éducation nationale. J'ai passé le concours de l'école normale dans les années 60 à Bordeaux. Je suis une Girondine née à La Flèche et atterrie dans les Landes dans les années 80. Toute ma vie a été consacrée à enseigner et éduquer, parce que je n'ai pas fait que ça. J'ai mis en place des actions hors temps scolaire de façon à promouvoir le savoir avec son application dans la connaissance. Je souhaitais que les enfants, quel que soit leur milieu, puissent accéder à ce que moi j'avais pu accéder grâce à une république laïque et ouverte à tous.
Très bien. Donc maintenant que vous êtes là
vous voulez autre chose ?
Non, on va continuer l'émission, on aura le temps de discuter encore. Myriam va nous faire une petite présentation personnelle aussi ?
Oui, alors moi aussi, franchement, l'éducation, c'est quelque chose qui me convient depuis des années. J'ai fait le choix de rester à l'amicale laïque depuis très longtemps, on en parlera peut-être aussi dans l'histoire, parce que je trouve qu'il est important de maintenir des actions éducatives, pédagogiques pour tous sur les territoires, de développer la curiosité, l'esprit d'ouverture, l'esprit de partage. Et c'est quelque chose qui est un fil conducteur à la fois dans ma vie professionnelle et dans ma vie perso. Mmh. Je suis hyper curieuse de tout. J'essaie toujours de faire découvrir à certaines personnes des choses qui les inquiètent un peu ou dans lesquelles ils n'osent pas se lancer. Donc voilà, je dirais que mon fil de vie, c'est voilà, la curiosité, l'éducation et le bonheur partagé pour tout le monde.
D'accord. Et tout naturellement, ça correspond avec les valeurs de la structure que vous représentez aujourd'hui, parce que voilà, le mot valeur, je crois on en a parlé un petit peu en antenne, mais voilà, on va parler un petit peu, on va présenter votre l'amicale laïque d'Acquoise. Donc 80 ans cette année, alors vous allez devoir vous y coller là, faire une petite historique là, parce que quand même il s'en est passé des choses en 80 ans, hein, ça c'est, il s'en passe des choses, c'est une vie, 80 ans c'est une vie. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur...
On fait un échange.
Allez.
Alors, ce que je peux dire, c'est que l'amicale laïque a démarré en 1946, après la Seconde Guerre mondiale. Elle a porté son aide à la mairie de Dax pour l'accueil des enfants de loisirs le mercredi, ou le jeudi, je ne me souviens plus exactement, n'étant pas sur le territoire. Donc c'était le besoin de permettre aux enfants d'avoir des jours de jeux, de recherche, etc. Et puis aussi de permettre aux parents de reprendre le travail. Mais l'association a énormément évolué au fil des temps. Je ne vais pas te faire des erreurs.
Alors, je peux faire, je peux faire la suite à l'ego. Et donc, une fois que l'association a été créée, elle a été créée par des enseignants. Donc, c'est ça qui est important parce qu'on est vraiment fondamentalement dans le milieu éducatif. Et ces enseignants, quand ils sont arrivés eux-mêmes à la retraite, qu'ils ont eu du temps pour eux, ils se sont créés un club rando et montagne pour se retrouver et poursuivre des activités qui continuaient d'enrichir leur curiosité, leur vie personnelle. Ces activités ont toujours perduré, c'est-à-dire que 80 ans après, on a toujours un secteur randonnée, on a toujours un secteur enfance. Donc ça veut dire que les valeurs et les idées fondamentales de départ, 80 ans après, elles sont toujours là. Et c'est ça qui est très riche, je trouve, dans cette association.
Oui. Alors c'est vrai que c'est une période particulière de l'histoire, juste l'après-guerre. C'est vrai qu'il y a une période où, la France a été, la France a été communiste à une époque. Il y a eu le Conseil national de la résistance qui a fait beaucoup de choses et des valeurs et du coup a émané forcément, on va dire de manière naturelle, des valeurs humanistes. C'est à un moment donné où s'est créé plein de choses. Alors hors antenne, je vous disais aussi les similitudes que je sentais entre la Ligue de l'enseignement et vous, dans les valeurs. Et les moyens de les appliquer.
La Ligue d'enseignement s'est créée à cette époque-là aussi.
Voilà, c'est ça. Donc c'était une période particulière, c'est toujours fascinant de voir que ces structures, même si elles ont bien sûr évolué au cours du temps, elles existent toujours. Donc il a fallu suivre les évolutions de la société. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, puisque ça fait un moment que vous êtes dans la structure toutes les deux, des évolutions de votre structure et de la société?
Alors, sur l'évolution de la structure, c'est vrai qu'on adapte au fur et à mesure. Alors, principalement, l'adaptation se fait par rapport aux enfants, aux propositions qu'on fait aux enfants, aux projets, aux actions qu'on met en place avec eux. Sur ce qui est le secteur adulte, tout ce qui est randonnée, etc., c'est vrai que très franchement, ce qui nous porte, c'est la connaissance du patrimoine, du territoire. C'est ça qu'on essaie de faire découvrir. On accueille pas mal de curistes qui viennent justement aussi pour cette découverte-là. Sur le secteur enfance, on s'est adapté parce que les parents ont commencé à intégrer un peu les écoles. Ils ont pris place en tout cas dans la démarche pédagogique plus ou moins. Donc on essaie maintenant de travailler aujourd'hui avec eux. On a affaire aussi à des collégiens qui n'ont pas les mêmes comportements aujourd'hui qu'il y a 15 ans.
Certes.
Donc les projets s'adaptent. On fait aujourd'hui beaucoup de médiation. Alors c'est vrai que ce mot, il est un peu galvaudé, mais il reste hyper nécessaire dans le secteur éducatif et pédagogique. Et puis on accompagne la formation, mais ça c'est quelque chose qu'on a toujours souhaité faire à l'Amicale Laïque, que ce soit la formation des bénévoles qui encadrent l'escalade, la rando, la marche nordique, mais aussi bien sûr toute la formation des acteurs éducatifs, et ça reste quelque chose qui est hyper important et qui s'est mis en place au fur et à mesure parce que la société a nécessité de ça. Et
oui, bien sûr. Alors ça représente combien de personnes cette association, parce que vu son historique et les actions qu'elle a, gros le volume entre les salariés, les bénévoles.
Alors, on va dire que on a une bonne trentaine de salariés, de bénévoles actifs. On les appelle actifs, donc c'est-à-dire que réellement ils interviennent sur les activités. On est 22 salariés aujourd'hui, 11 équivalents temps plein à peu près. Et puis on a plus de 250 adhérents à l'escalade, une grosse centaine sur le secteur randonnée, marche nordique. Et une cinquantaine à peu près sur le secteur enfance, accompagnement scolaire. On en parlera peut-être un peu après.
Oui, on va en parler, puisque donc, en gros, il y a trois items importants. C'est le secteur enfance-jeunesse, randonnée pédestre et marche nordique, et la section escalade. Alors, historiquement, comme vous disiez, c'est à l'époque... c'est vrai que, quand on voit les associations comme les universités du temps libre, etc., on trouve pas mal d'enseignants. Qui ont des activités, qui baignent des ateliers. Il y a beaucoup de langues aussi, d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a plein de gens, on dirait que, un petit peu comme le confinement, ils ont dit, le jour où j'aurai le temps, je vais mettre à l'italien, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu ce type de profil. Le secteur enfance-jeunesse, déjà un premier chapitre.
Si je peux intervenir, vous êtes en train de dire qu'il y a beaucoup d'enseignants. Quand on regarde l'âge des enseignants qui sont dans ces associations, ils font, on va dire, ils sont dans le passé un petit peu, niveau formation. Et je crois qu'il y avait à l'époque, lorsque moi j'ai fait une formation aussi d'enseignant, et qu'en normal, c'était pas n'importe quoi, c'était un ascenseur social, souvent. Et on avait, par les échanges avec les responsables de ces espaces-là, un engagement. On nous disait qu'il fallait s'engager pour l'État, que l'on devait porter des valeurs, les valeurs de la République, de la démocratie, de la laïcité. Et tout cela nous était donné en tant que débutants dans l'enseignement. Et je crois que ce sont les bristards de la République, en fait, du métier. Et que le monde a un peu changé, et que l'associatif, comme la nôtre, reprend le rôle que ces enseignants avaient à l'époque.
Oui, c'est vrai que c'était une question générationnelle, comme il y a beaucoup de retraités.
C'est l'impression, je n'ai pas raison.
Non, mais c'est une analyse intéressante, parce que comme il y a beaucoup de retraités qui font tourner les associations, parce qu'ils ont du temps, que forcément, certainement n'ont pas, mais du coup, ils sont aussi peut-être d'une période où les choses étaient différentes, les valeurs étaient enseignées d'une manière plus prégnante et différente.
Ça, et il fallait se battre, parce qu'on sortait, ces gens-là sortaient d'une époque qui était très douloureuse.
Oui, bien sûr.
Il faut quand même se rappeler qu'on avait dans les rues des villes des bottes qui se promenaient et qu'on descendait rapidement quelqu'un avec un pistolet.
Oui, voilà.
Donc, et qu'il n'y avait pas de quoi manger. Donc, je pense que ces gens-là se sont appropriés après par des gens qui ont monté les valeurs, des élus, etc.
Bien sûr, oui.
Comme vous disiez, le Conseil de la Résistance.
Oui, bien sûr.
Donc, je crois qu'ils sont engagés dans cette volonté éducative permanente.
Bien sûr. Très bien, mais c'est très intéressant, cette analyse-là, c'est intéressant d'en parler. On va déjà faire notre première petite pause musicale et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.
À tout de suite.
Et nous voilà de retour. Alors donc effectivement, secteur enfance et jeunesse, donc on va dire, c'est parce qu'on parlait un petit peu les valeurs, les transmissions, donc c'est le moment où ça se passe, en fait, tout ça. C'est le moment vital dans la vie d'une personne.
C'est les premiers pas. Oui, c'est ça. C'est ça, et c'est effectivement le secteur qui est le plus important à l'Amicale laïque. C'est celui qui concentre le plus grand nombre de salariés. Ils sont tous sur ce secteur-là, sauf un, qui est le moniteur d'escalade. Et effectivement, nous, on fonctionne sur Dax majoritairement, mais pas que. Voilà, on est en marché public avec la ville de Dax, mais on est aussi sur des projets avec la caisse d'allocation familiale, avec la préfecture pour la politique de la ville. Et on porte des actions tous les jours. En fait, l'Amicale laïque ne s'arrête jamais, du lundi au dimanche. Entre le secteur enfance, escalade et rando, on est tous les jours ouvert. On a des actions tous les jours pour les enfants, les jeunes, les adultes. Et le secteur enfance-jeunesse, c'est évidemment celui dans lequel on essaie de distiller un maximum de nos valeurs, qui sont principalement le respect des uns des autres, la laïcité, on en a parlé, mais tout ce qui est aussi belle expression, que tout le monde puisse trouver sa place là où il a envie d'être. Donc oui, c'est un secteur qui est capital chez nous, et toute la formation des enfants, des jeunes et des adultes qui les encadrent.
Et oui, bien sûr. Alors moi, j'ai repris quelques phrases qu'il y a dans vos documents. Et donc, je vois qu'un enfant qui crée, et c'est un enfant qui grandit.
Oui, bien sûr.
Un jeune qui comprend ses émotions est un jeune qui se stabilise. On va parler un petit peu aussi de la sophrologie. Avec tout le monde fait ça, devrait faire ça, en fait, de temps en temps. Et un parent aussi, ça c'est important. Un parent qui participe est un parent qui s'engage. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup maintenant de formations et d'interventions par rapport à l'aide à la parentalité. Ouais. Donc apparemment, nos concitoyens de nos jours ont besoin qu'on les aide à être parents. Et donc, vous partez du principe, effectivement, que les impliquer dans les actions qui sont avec les enfants, c'est très important, en fait.
Oui, bien sûr, c'est très important, parce que d'abord, ça nous permet de créer du lien, et c'est ça qui est capital. Si on se comprend, si on maîtrise un peu la place de chacun, ce que chacun apporte à l'enfant, on va travailler mieux ensemble autour de lui. Et on n'éduque pas un enfant tout seul, on éduque un enfant à plusieurs. Il traverse dans sa journée différents moments.
Oui.
Il croise différents adultes. Et si on arrive à travailler avec les parents, à échanger avec eux, c'est toujours mieux. Et c'est vrai que nous, on a commencé il y a des années, alors je dirais plus de 25 ans, on a commencé à faire des animations partagées avec les parents. C'est des choses qui existaient très peu. Aujourd'hui, on en retrouve un peu partout.
Oui.
Mais à l'époque, on en trouvait très peu. Et c'est vrai qu'on a toujours fait des ateliers jeux de société, des ateliers cuisine, des choses comme ça en fin de journée, sur les centres de loisirs ou sur les classes, donc les contrats d'accompagnement à la scolarité. Et franchement, c'est capital, d'intégrer les enfants, je pense. Les parents, pardon.
Oui, parce que c'est vrai que, comment dire, il ne faudrait pas considérer l'éducation nationale comme une simple garderie dans laquelle on dépose des enfants, on les récupère le soir en sous-traitant, entre guillemets, hein, la transmission d'autres choses que le français, les maths, etc., mais les valeurs aussi. Il faut absolument impliquer, que les parents s'impliquent dans ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile en ce moment, notamment par les réseaux sociaux, etc. Et voilà, il faudrait qu'il y ait un partenariat main dans la main entre le système éducatif officiel, ouais, hein, éducation nationale, et les parents.
Alors,
Vous parlez de partenariat avec les parents. Je pense que précédemment, dans le passé, les parents étaient plus en partenaire, des partenaires d'éducation.
Oui.
Je pense que maintenant, ils délèguent à des structures, quelles qu'elles soient, l'éducation qu'ils devraient apporter à leurs propres enfants. Mmh. Alors, c'est un constat que moi je fais, et sur lequel d'ailleurs nous travaillons, justement ce que disait Myriam, par les ateliers participatifs. Mmh. C'est très important.
Oui.
Et il ne faut pas non plus systématiquement accuser les parents.
Ah ben non.
Certains font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont.
C'est ça, c'est...
D'abord, être parent n'est
c'est
pas
ça.
Un métier.
Oui.
Ça ne s'apprend pas.
Non.
Et on a en face de soi un individu qui apparaît avec son individualité et que parfois, il est très difficile de donner une réponse.
Oui.
Mais je crois que moi, ce qui pour moi est très important, c'est à partir du moment où, comme dans notre association, le noyau, c'est quand même l'éducation de la jeunesse et de l'enfance, je pense qu'il faut donner des savoirs aux enfants. Il faut qu'ils aient des connaissances, et à partir de ces savoirs, ils puissent développer leurs propres connaissances. C'est-à-dire, aller à partir d'un savoir donné, aller ailleurs voir si ce savoir est en contradiction avec un autre, au contraire, validé par une autre forme.
Oui.
Il faut créer ça au niveau intellectuel, c'est-à-dire donner cette espèce de curiosité et de doute perpétuel.
La construction de l'esprit critique.
Voilà.
Oui.
Et je crois que c'est important et que la majorité dans notre société, la majorité des personnes s'imaginent qu'il suffit de lire sur des réseaux sociaux actuellement et dire je me suis approprié cette connaissance.
Oui, tout à
ce
fait.
Ce qui
est
faux.
Oui, oui. C'est vrai
parce que cette connaissance, d'autant plus avec le matériel actuel, on peut faire avaler n'importe quoi, même des couleuvres.
Mais oui, c'est ce qui se passe. Hein. Oui, alors c'est vrai que là, j'allais dire que vous vous battez contre un ennemi très puissant. Hein. Alors, je sais que voilà, vous proposez aussi des formations par rapport à l'intelligence artificielle, par exemple. Mais c'est vrai que la tendance qu'ont les jeunes, normal, hein, voilà, avant d'utiliser par exemple un moteur de recherche Google, on pose une question, on lisait les différentes réponses. Et on se faisait un avis, on faisait une synthèse, on faisait l'acquisition de connaissances dessus. Alors que quand on pose la question à une intelligence artificielle, on a une réponse absolue, d'une seule voix, sans preuve. Et voilà, donc du coup, on perd cette étape-là d'esprit critique, de construction.
La critique.
Voilà, ouais, ouais.
Alors, oui, mais je pense aussi que ça dépend la façon qu'on a d'utiliser tout ça, parce que je crois aussi que sur Google, autrefois, les gens ne lisaient que Wikimedia le premier.
Oui, oui, oui.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'allaient pas jusqu'à la deuxième ou troisième proposition et du coup, qui n'avaient qu'une seule information et qui ne mettaient rien en perspective non plus. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur l'utilisation de l'IA parce que je voudrais que les gens arrivent à l'utiliser justement de façon cohérente.
Il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre
et optimale. Hein. Et comme on sait que quoi qu'il en soit, les jeunes vont l'utiliser.
Tout à fait.
Ben, autant anticiper les choses et essayer de leur apprendre à l'utiliser. Et c'est là aussi où je reviens à votre question du début sur les parents. Nous, on fait aussi des temps pour apprendre justement aux familles à l'utiliser.
Oui, bien sûr.
Et y compris à naviguer sur les réseaux sociaux et tout ça, parce qu'on ne peut pas accompagner son enfant si on ne sait pas nous-mêmes comment fonctionnent les choses. Donc c'est capital, c'est vraiment capital de former tout le monde et d'ouvrir l'esprit à tout le monde en vrai.
Oui, bien sûr. Eh bien, c'est déjà le moment de faire notre deuxième pause. On va écouter le flash info local, un petit peu de musique et on retrouve nos invités tout de suite après ça. Et voilà, c'est reparti. Alors, c'était Philippe Châtel, tout quitter, tout emporter, partir comme un escargot avec sa maison sur le dos. On va parler aussi un petit peu de mouvement, justement. On a parlé un petit peu en antenne avec Myriam. Erasmus, parlons-en, parce que ça ne concerne pas que les petits-enfants, les grands aussi. C'est très important, en fait.
Alors, exactement. C'est vrai que je tenais à le préciser pour tous ceux qui travaillent un peu dans les associations, etc. Et tous les adultes, il y a moyen de faire des projets Erasmus, d'aller à la rencontre de professionnels qui font le le même métier que nous, d'aller faire des petits stages d'observation comme si on était en troisième. Mmh. Voilà, aller voir dans tous les pays comment fonctionne le système éducatif, comment fonctionne le système des loisirs éducatifs, des loisirs sportifs, culturels, etc. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir un partenariat avec l'association WIPSI que vous avez reçu il n'y a pas longtemps.
Voilà, c'est nos partenaires aussi.
Exactement. Et on est dans plusieurs projets communs avec eux. Et je trouve que c'est capital. Et c'est vrai qu'on a la chance, nous, dans l'association, de partir trois fois dans l'année, à peu près 3-4 fois dans l'année, des salariés, des bénévoles, des membres du conseil d'administration. Le prochain séjour est prévu la première semaine de mars, voilà, où j'embarque avec moi une bénévole sur un projet en Espagne autour de la Journée internationale des droits des femmes. Donc, je trouve ça vraiment hyper important. Et puis, voilà. Et donc, c'était juste un petit mot aussi pour dire à toutes les associations qui n'osent pas ou tous les adultes qui n'osent pas se lasser là-dedans de ne pas hésiter à nous appeler.
Oui, c'est vrai qu'on
ils envoient un petit message.
Hein. Oui, on n'y pense pas forcément. Hein.
Exactement. Et après, on essaiera de les diriger vers les bonnes personnes ou vers les bons projets. Mais surtout, n'hésitez pas. Mmh. Et quand on parle de formation et d'ouverture d'esprit, Erasmus Plus est vraiment là pour soutenir ça et d'aller voir ailleurs. Quelquefois, ça décale un peu nos pratiques professionnelles. Et ça, c'est génial.
Il faut prendre du recul un peu sur ce qu'on fait tous les jours, sur nous-mêmes aussi.
Exactement.
Se confronter un peu aux autres.
Hein. Oui.
Bon, on a parlé un petit peu avec WIPSI de ça. Hein. C'est vrai qu'un salarié peut très bien monter un projet Erasmus, il va partir une semaine par exemple et puis il rencontrera des gens qui font le même métier que lui.
Exactement.
Et confronter un petit peu les pratiques et découvrir en plus les cultures d'autres pays. Voilà. Ça, c'est quand même,
Se former un peu aux langues étrangères, ce qui est pas mal aussi, pour pouvoir partager.
On dit tellement de mal des capacités des Français en une langue étrangère.
Mais c'est une réalité, ça, par contre.
C'est le français lui-même qui prend cher, souvent.
Je crois que c'est un problème d'oreille.
Oui. Ah, peut-être.
Ouais. J'avais écouté un spécialiste, et il y a des difficultés parce qu'on n'a pas le même système.
Oui. On entend moins bien, on est moins...
On est moins performant.
On est moins performant.
Peut-être.
Et puis, le français, à l'époque, se parlait en Europe.
Oui, c'est vrai.
Les empires
parlaient
français. Donc, peut-être qu'on ne veut pas trop le perdre, cette situation.
Bien sûr, oui, c'est vrai.
Mais je crois beaucoup à l'utilisation de langues étrangères. Je pense que c'est nettement mieux.
Très bien. Alors, on va parler un petit peu des autres aspects de votre association. Hein. Donc, la partie, on va dire, un peu plus sportive. Hein, la randonnée pédestre et la marche nordique, exemple. Donc,
je peux en parler.
Alors, Alors, ça concerne combien de monde tout ça et quel type d'activité ça représente?
Alors, la rando pédestre et la marche nordique, qui sont conduits et menés par des bénévoles et parfois des élus, sont des activités qui, on est combien, à peu près
Une centaine,
ça dépend. Qui aussi, donc, ça fait des sorties tous les 15 jours le dimanche, et tous les jeudis après-midi, un petit circuit qui permet d'offrir cette activité aux curistes. Et il y a souvent, ce sont souvent des groupes entre 30 et 40, qui se déplacent. Les marches nordiques, c'est, autant que je le sache, le mercredi.
Et le mardi.
Et le mardi. Alors, le mardi, c'est une marche nordique plus souple. Et le mercredi, c'est une marche nordique dynamique.
D'accord.
Elles sont conduites par des bénévoles, bien entendu. Ce que l'on peut dire sur la rando, la pratiquant moi-même, c'est que en plus elle ajoute des sorties culturelles, c'est-à-dire qu'elle allie la rando, l'effort physique, avec la culture.
Évidemment.
Elle va jusqu'à mettre en place tous les 2 ans un voyage auquel d'ailleurs j'ai profité précédemment dans l'Aveyron et où les découvertes culturelles ont été très intéressantes et bien entendu associées au déplacement pédestre. C'est un groupe très 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 vivant, très agréable et où les valeurs sont respectées. C'est-à-dire qu'on parle de tout et de rien sans rejeter l'autre parce qu'il a une autre idée.
Oui, bien sûr. Voilà.
Je et pense que...
Juste pour ajouter, pour ceux qui écoutent et qui auraient envie de venir marcher, voilà, vous pouvez soit prendre contact avec nous directement à l'Amicale Laïque, bien sûr, mais vous pouvez surtout aussi vous rendre directement sur la place de la Chalosse, puisque tous les départs se font de là, le mardi, mercredi et jeudi. Vous y arrivez vers 2h moins le quart et vous allez rapidement repérer le groupe, ou 1h30. Vous allez repérer le groupe assez rapidement et voilà, vous vous présentez et vous pouvez venir faire un premier test pour voir si ça vous convient. Et ensuite, si vous souhaitez adhérer à l'Amicale Laïque, ce sera 40€ en tout pour l'année.
D'accord.
Voilà.
Ouais. Alors, c'est vrai qu'on est un pays vraiment sympa pour la balade, quand même, parce que ce soit les grandes étendues vides du Far West des Barthes, hein, que ce soit les chemins de halage, les chemins ruraux.
La Chalosse.
Voilà, tout ça.
Le bord de mer.
Le bord de mer. Donc, voilà. En tout cas, si on ne veut pas faire trop de dénivelé, parce qu'il y en a un petit peu, mais bon, quand même, on ne va pas se mentir.
Il y en a
un peu, mais bon.
Dans la rando, par exemple, au mois de mars, il y a une rando qui se fera, c'est un dimanche, hein, du côté en Espagne, à Irún, côté d'Irún. Cette rando a 400 mètres de dénivelé.
Oui, voilà.
Mais ce qui est intéressant, pour ne pas effrayer les gens, c'est que les organisateurs, qui sont formés, des gens formés.
Ils sont formés, oui, c'est vrai.
Si la rando par elle-même offre des difficultés, ils aménagent toujours un deuxième circuit pour que tous les adhérents puissent profiter de cette journée.
Une autre boucle qui soit plus facile en cas de difficulté. Oui, je comprends bien. Alors, en parlant de dénivelé, tiens, on va peut-être parler d'escalade, parce que ça, c'est du dénivelé.
Oui, c'est fou.
Ouais. Voilà, alors, mais quelle idée de faire de l'escalade dans un pays où il n'y a presque pas de falaises, comme j'allais dire. Bon, c'est vrai que le plus proche, c'est à Sort de l'Abbaye. Hein, voilà. Il y a des falaises, là, qu'on peut voir, des petites falaises. Oui. Alors, donc, c'est quand même traditionnellement une activité que vous faites, l'escalade.
Alors, l'escalade est arrivée en 2013. En fait, c'est quand la mairie de Dax a construit le stade Colette Besson. Ils souhaitaient, à l'intérieur, faire un mur d'escalade, ce qu'on appelle une structure artificielle d'escalade. Donc, aujourd'hui, il fait 9 mètres de haut. Bon, voilà. Et en fait, on était les seuls sur l'agglomération d'Acquaz à être déjà adhérents à la Fédération française de montagne et d'escalade, puisqu'on avait à l'époque un club de montagne qui s'est arrêté il y a quelques années. Et du coup, naturellement, les élus municipaux nous ont proposé de prendre la gestion de ce mur d'escalade, ce que nous avons fait. Donc, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'il fonctionne. On a aujourd'hui 250 adhérents, un salarié, un prestataire. On refuse du monde. Alors, on refuse du monde, pas parce qu'on ne veut pas les prendre, mais parce que l'escalade étant un sport à risque, les groupes sont tout petits. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, pour des groupes de 6 à 8 ans, on ne peut pas prendre plus de 6 à 8 gamins.
Donc,
ça limite énormément à côté d'autres groupes de sport collectif où on peut accueillir beaucoup de monde. Voilà, et on a aujourd'hui des jeunes qui fonctionnent super bien. Le week-end dernier, ils ont eu des classements géniaux. À la Coupe Région. Donc, on remercie David et David, puisqu'on a un groupe de David qui encadre. Et tous les bénévoles qui encadrent aussi les cours adultes et les loisirs autonomes. Donc, c'est une section qui fonctionne super bien. On a des bénévoles qui proposent des actions régulièrement. Et si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous devriez avoir bientôt une information pour une journée portes ouvertes.
Très bien. Alors, on en a parlé aussi hors antenne. Donc, il y a des fois des sorties un petit peu sur des vraies falaises. Notamment, moi, je connais celle d'Arudy, parce qu'elle est assez connue là-bas, il y a une belle falaise pour escalader, donc ça fait partie des choses qui se font.
Exactement, oui. Dès que les beaux jours arrivent, ils commencent à établir les plannings. Donc là, ils avaient une réunion la semaine dernière où j'étais et où ils commençaient justement à parler de leur petite sortie de mai-juin. Il y a des sorties qui sont pour les jeunes, des sorties pour les adultes. Voilà, ils essaient d'adapter bien sûr les niveaux et ils vont, toujours plutôt vers les vallées du 65 parce que c'est par là-bas qu'il faut se déplacer.
Oui. Et donc, il y a aussi, alors, vous en avez parlé aussi, de la compète, en fait.
On a des compétiteurs qui commencent à atteindre de bons niveaux, notamment chez nos petits. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on atteint des demi-finales de Coupe de France, des choses comme ça. Ça commence à devenir plutôt pas mal sur les classements. Et la semaine dernière, ils ont vraiment fait de beaux podiums.
Très bien.
Je crois qu'il faut aussi dire que c'est une section qui fait de l'inclusion. Ils font
une journée.
Est-ce que je peux dire handicap? Je ne sais pas.
Pour des enfants qui ont besoin d'un accompagnement différent, en tout cas, mais qui est labellisé Fédération française de sport adapté. On a le label.
Oui, ça, c'est important de le préciser.
C'est important.
Effectivement, c'est vrai.
C'est
Il faut bien qu'on retrouve vos valeurs à tous les étages.
C'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est clair. Hein. Voilà, c'est très ça. Bien.
C'est le samedi matin. Voilà. Il reste éventuellement quelques places s'il y a des gens qui nous écoutent. D'accord. C'est le seul créneau sur le reste sur lequel il reste.
De toute façon, il y aura un lien vers vos réseaux sociaux dans le podcast, que les gens puissent aller voir ce que vous faites et vous suivre.
Oui.
On va faire déjà notre dernière pause, écouter un petit peu de musique et on se retrouve enfin pour la conclusion de cette émission. À tout de suite. Voilà, alors on a encore plein de choses à dire avant de se quitter. Myriam, elle a plein d'infos, d'actu et de choses à nous dire.
Alors oui, alors au moins trois. D'abord, revenir sur l'accompagnement scolaire qu'on met en place. Donc, je ne vais pas redétailler, mais c'est un peu tous les soirs dans les quartiers du Gond, Cuyès et Sablard. Donc, si vous voulez des infos, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'Amicale Laïque. Mais surtout, sachez que le mercredi après-midi, au Sablard, justement, on a un accompagnement scolaire de 14h à 17h qui est spécifique pour les enfants du CE2 à la 3e. Il nous reste quelques places. Donc voilà, si vous connaissez autour de vous des jeunes qui en ce moment sont un petit peu en galère, que ce soit sur des apprentissages, sur des modes d'organisation, voilà, ou qui sont perdus, qui ont perdu confiance, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, sachez que ça coûte 9€ pour toute l'année, donc tout va bien.
Oui.
Et mais voilà, il reste quelques places le mercredi après-midi. C'est dommage parce que je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui en auraient un peu besoin, là, des petits comme des grands collégiens.
Très bien.
Première petite info, après je vais passer la parole à Marie-France.
Juste pour revenir sur ce que vient de dire Myriam concernant et l'information qu'elle vient de donner, accompagnement scolaire, possibilité de faire son travail scolaire accompagné par d'autres personnes que le maître dont le statut est particulier. Je pense que c'est aussi une approche différente parce que dans le cadre scolaire, on a une approche, mais avoir une interrogation à se poser sur ce savoir, cette approche donnée par quelqu'un d'autre, d'une autre manière, peut-être parfois, facilite l'acquisition.
Oui, bien sûr. Oui.
Donc, très important, ce qu'on a peut appeler l'accompagnement scolaire.
Venez nous voir.
Voilà. Ensuite, un
deuxième point, c'est que un peu comme dans toutes les associations, nous sommes à la recherche d'élus dans notre conseil d'administration. Aujourd'hui, ils sont 8, mais c'est vrai que voilà, plus on est nombreux et mieux c'est. Et puis surtout, plus on est nombreux et plus ceux qui ont des responsabilités peuvent les partager. Et ça, c'est important aussi. Bon, je sais qu'on n'est pas la seule association à rechercher des élus, mais voilà, sachez aussi que vous pouvez nous contacter. Vous n'êtes pas obligé d'être ni spécialiste, ni technicien, ni quoi que ce soit. On vous formera, on prendra le temps de vous accompagner pour que vous puissiez trouver votre place parmi nous.
Oui, il y en a besoin. Oui.
Ouais. Et la dernière chose, c'est peut-être un peu remercier justement nos élus actuels, remercier les salariés qui s'engagent tous les jours dans nos projets, remercier tous les bénévoles qui interviennent sur toutes nos sections, remercier aussi nos partenaires qui continuent de nous faire confiance. Voilà, la ville de Dax en premier lieu, et puis tous les partenaires CAF, politique de la ville, la SDJES au niveau du département, pour la jeunesse populaire, etc. Donc voilà, on a la chance d'être au cœur d'un système qui fonctionne. On a la chance d'être au cœur d'un territoire qu'on connaît très très bien, qu'on porte l'histoire aussi de cette association, parce que comme vous l'avez dit au début, on est là depuis très longtemps. Et on remercie aussi bien sûr tous nos adhérents, parce que sans adhérents il n'y a pas d'association, et aux familles, aux enfants, à tous ceux qui nous feront confiance de continuer de nous donner la chance de les accompagner tous sur un joli chemin de l'éducation.
Très bien, c'était un beau mot de la fin, je pense. Mesdames, merci beaucoup d'être venues nous voir. Et puis
merci.
Voilà, vous parliez d'associations qui est un peu voisine à la vôtre. C'est en commun la transmission de certaines valeurs dont on a besoin. Et le vecteur de tout ça, c'est passé par l'enseignement, l'éducation,
l'engagement aussi.
Oui.
L'engagement. S'engager, c'est très important.
Oui, oui. Il ne faut pas laisser regarder le train passer, il faut monter dedans de temps en temps. Hein,
c'est ça.
Très bien.
Ben,
merci beaucoup, mesdames, pour cette visite et de nous avoir présenté vos activités qui sont engageantes, justement. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.